du débat du jour. Romain Ozoui.
Bonsoir à tous. Cela ne vous a pas échappé, vous qui êtes un fidèle auditeur de RFI. La COP27 a lieu actuellement à Sharm el-Sheikh en Égypte. 40 000 personnes issues de 196 pays sont réunies pour cette grande messe annuelle organisée par les Nations Unies et qui a pour objectif la lutte contre le changement climatique. Mais justement, cet objectif est-il atteint? Quel bilan peut-on tirer des COP, dont c'est la 27e édition cette année, d'où le nom de COP27? Le réchauffement climatique, vous le savez, ne cesse de s'accélérer. Est-ce que ça veut dire que les COP sont inefficaces? Voilà nos questions ce soir. Soyez les bienvenus.
RFI.
Et pour répondre à ces questions, nos trois invités. D'abord, en direct depuis Sharm el-Sheikh, Lola Valéjo, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes directrice du programme climat de l'IDRI, l'Institut du développement durable et des relations internationales. Nos deux autres invités sont en studio à mes côtés. Bonsoir Ami Dahan.
Bonsoir.
Vous êtes historienne des sciences, spécialiste des gouvernances internationales du climat, directrice de recherche émérite au CNRS. Et puis je vais citer l'ouvrage dont vous êtes la co-auteur, qui est complètement au cœur de notre débat. Oui. Gouverner le climat, 20 ans de négociations climatiques. Vous allez pouvoir nous faire part de votre expérience. Guillaume Compin, bonsoir.
Bonsoir.
Notre troisième invité, chargé de campagne climat et énergie à l'ONG Oxfam France. Merci à vous trois d'avoir accepté l'invitation du débat du jour. Justement, je voudrais qu'on rejoigne directement Sharm el-Sheikh au cœur de cette COP27. Lola Valéjo, pour lancer ce débat, vous qui êtes sur le site de la COP, est-ce que vous pouvez nous raconter ce qui se passe lors d'une COP? Comment se déroulent les journées?
Des affaires assez rythmées. Là, en ce moment, on vient de se terminer le segment de haut niveau, c'est-à-dire que tous les chefs d'État et chefs de gouvernement étaient invités à donner des discours qui étaient importants pour donner une sorte de tonalité politique de qu'est-ce qu'allaient être les grandes déclarations qu'on allait pouvoir adopter. Et puis, on commence à organiser les journées suivant l'agenda que porte la présidence. En ce moment, c'est la présidence égyptienne. Et cette COP-ci, elle s'organise beaucoup autour des demandes des pays en développement, notamment des questions de finances et de solidarité internationale, notamment pour faire face aux impacts du changement climatique. Donc, en gros, c'est des diplomates qui négocient dans des pièces et aussi des événements et des coalitions lancées par des petits groupes de pays et ou avec le soutien du secteur privé ou d'acteurs. Donc c'est une grande foire avec beaucoup de personnes qui travaillent sur les questions climatiques.
Ouais, plusieurs événements qui se déroulent en même temps finalement, au sein même d'une journée.
Oui, tout à fait.
Parce que là, il y avait le sommet des dirigeants, oui, vous l'avez dit, qui s'est achevé aujourd'hui, qui avait lieu hier et aujourd'hui, ce sommet des dirigeants. Et en même temps, il y a d'autres événements.
Tout à fait. Alors il y a les sommets de haut niveau, les sortes de grandes annonces, le secrétaire général de l'ONU qui était à la tribune. Beaucoup de présidents qui sont déplacés, notamment le président français qui a parlé hier, par exemple. Mais il y a aussi un travail un peu plus minutieux de fourmi poussé par des diplomates qui négocient un texte qui est souvent un peu critique à lire de l'extérieur, qui essaye de faire avancer la mise en œuvre du cadre collectif de l'action internationale qui est l'accord de Paris conclu en 2015.
Ami Dahan, alors, vous êtes rendu à quasiment toutes les COP, vous disiez juste avant cette mission, depuis 2004.
Oui, entre 2004 et 2019, pratiquement à toutes.
Hein. Quel regard vous portez sur ce qui se passe lors de ces COP?
Ça a dépendu évidemment des périodes. Je dirais que dans un premier temps, le changement climatique n'allait pas de soi, y compris les délégations. On peut dire que au début des années 2000 encore, il y avait du climato-scepticisme partout. Ça c'est quelque chose qui évidemment a beaucoup régressé. Il y a une montée de l'enjeu, de la conscience du risque climatique et de ses enjeux. Et ça c'est aussi grâce à ce processus multilatéral, de tout ce qu'il a permis, des discussions avec les scientifiques qui ont été là, qui ont expliqué dans ce qu'on appelle les événements parallèles, les side events, tout ça. Maintenant, depuis l'accord de Paris, parce que finalement, c'est ça qui nous intéresse quand même.
2015, c'est le tournant.
Oui, c'est le tournant. Non, ce n'est pas vraiment le tournant, mais c'est un moment quand même important, très important, puisque là, on a considéré que la plupart des... Ça a été signé par 192 pays, je crois, enfin à peu près, à un près, je ne sais plus. Mais bon, là, on avait vraiment un accord où les pays s'étaient engagés volontairement, ils avaient annoncé ce qu'ils allaient faire. Et l'idée était que ça serait réexaminé périodiquement, enfin rapidement, tous les 2-3 ans, avec un calendrier prévu, et pour rehausser les ambitions, parce qu'en 2015, c'était pas encore suffisant, et ce n'est pas encore suffisant, évidemment, ça ne l'est jamais. On sait que le changement climatique est de plus en plus grave, de plus en plus, y compris les scientifiques eux-mêmes. Moi, je suis dans un milieu vraiment de scientifiques. Aujourd'hui, ils réexaminent leur modèle, y compris ce qui s'est passé cette année 2022. C'est-à-dire, on se dit, il y a des choses qui vont beaucoup plus vite et qui sont beaucoup plus dramatiques, y compris ce que le GIEC avait prévu. Par exemple, dans certaines régions du monde, l'Europe, par exemple, s'est réchauffée plus que ce qui était prévu dans les rapports du GIEC. Plus les autres, évidemment, il n'y a pas que l'Europe, ce qui s'est passé aux Philippines, au Pakistan, etc. Enfin, il y a des choses terribles qui se développent dans les dernières années, et de plus en plus vite, et de plus en plus dramatiques pour les populations.
On a de plus en plus, effectivement, les illustrations du changement climatique, et on est loin de cet objectif que vous le disiez, formulé lors de l'accord de Paris, de limiter à idéalement 1,5 ou 2 degrés le réchauffement climatique par rapport à l'ère pré-industrielle.
Et si possible, 1,5.
Et là, on se dirige davantage vers 2,5, selon les estimations.
Ou peut-être plus. Parce que vous savez en plus que cette histoire de température moyenne, c'est un concept qui est très difficile à comprendre pour les gens qui ne sont pas dans le cœur du problème, étant donné que c'est une température moyenne qui n'est atteinte d'une certaine façon nulle part, dans aucun point du globe qui caractérise ça, mais que les surfaces terrestres, c'est plus, beaucoup plus, parce que les océans mettent du temps à se réchauffer. Ils ont un facteur d'inertie énorme. Donc quand on dit 2 degrés ou 2,5 degrés, ça veut dire sur les continents 4 ou 5 quelquefois. Et on l'a vu d'ailleurs cet été en Europe, et on le voit dans les feux, etc., partout. Donc ça, il faut s'en rendre compte de ça.
Le réchauffement climatique s'accélère, et pourtant les COP ont lieu chaque année. Guillaume Compin, j'ai posé la question à l'historienne, quel regard elle portait sur les COP, à Midahan, qui a l'habitude de se rendre dans les COP. Vous, en tant que chargé de campagne climat et énergie à Oxfam France, vous portez quel regard sur les COP ?
On pense que les COP, c'est évidemment un espace qui est important. C'est l'un des seuls moments dans l'année où les États peuvent se réunir tous ensemble pour essayer de trouver des politiques qui permettent de diminuer au maximum les émissions de gaz à effet de serre. C'est également effectivement l'espace qui a permis l'accord de Paris, qui même si il reste difficile à tenir aujourd'hui en vertu des ambitions actuelles, fixe un cap collectif et à la fois pour les États, mais aussi pour les acteurs privés, notamment les grandes entreprises. Donc même si les engagements actuels sont loin d'être à la hauteur, vous parliez d'engagements actuels qui nous emmènent vers une trajectoire à 2,5 degrés à la fin du siècle. Donc on attend évidemment des engagements bien plus forts de la part des États. Et puis un autre sujet qui est très important, c'est celui de la justice climatique internationale, c'est-à-dire entre les pays les plus riches, les plus industrialisés, qui ont largement bénéficié des émissions historiques de gaz à effet de serre, et puis des pays dits en développement qui aujourd'hui cherchent à croître, en tout cas à développer leurs économies et tout simplement à avoir des services par exemple de santé, d'éducation qui permettent d'atteindre un bien-être auquel tout le monde a le droit et qui font face à cet enjeu de pouvoir se développer dans un cadre contraint d'émissions. Et donc évidemment il ne faut pas dévier de cet objectif d'atteindre l'accord de Paris, mais ça implique de la solidarité et même plus que de la solidarité, en fait c'est une responsabilité de la part des pays les plus riches envers les pays en développement, de les aider financièrement, techniquement, à assurer leur transition énergétique, mais aussi à faire face, à la fois à s'adapter et puis à faire face aux impacts dramatiques du changement climatique.
Mais finalement, là, vous énoncez vos attentes, peut-être avec cette COP27, mais il y en a eu 26 précédemment. Ça vous a inspiré quoi, tout ce qui a pu être décidé à l'issue des COP précédentes ?
Comme je le disais juste avant, déjà, l'accord de Paris sert quand même aujourd'hui de référence à énormément d'acteurs. Donc ça, ça a été une victoire. Le fait qu'à Copenhague, même si Copenhague a été décrit à juste titre en 2009 comme un échec du point de vue de l'ambition, en revanche, c'est ce qui a permis de fixer ce cap des 100 milliards de dollars que les pays riches se sont engagés à fournir aux pays en développement chaque année
à partir de 2020.
Et qui n'ont, à partir de 2020. Donc,
mais c'est un chiffre très important, 100 milliards de dollars d'engagement des pays développés par an pour les pays en voie de développement à partir de 2020. Mais ça, c'est un bon exemple parce qu'on n'y est pas.
On n'y est pas. Et alors là, vous me demandiez le verre à moitié plein. Après, effectivement, le verre à moitié vide, c'est que non seulement ces 100 milliards n'ont pas été atteints à partir de 2020, je parle bien de 100 milliards annuels, on était, d'après les chiffres de l'OCDE, à peu près à 83 milliards sur les 100 milliards, donc promesses non tenues de la part des pays riches. Mais en plus, ces financements sont, dans leur majorité, fournis sous forme de prêts. Alors parfois à des taux avantageux ou sous des conditions avantageuses, mais souvent aussi avec des intérêts à rembourser. Donc je ne sais pas si on peut vraiment parler de solidarité quand on endette encore plus des États qui cherchent à obtenir les marges de manœuvre suffisantes pour lutter contre le changement climatique. Et puis évidemment, les chiffres, les travaux scientifiques nous montrent que les besoins sont bien plus importants que 100 milliards de dollars par an. Rien que l'ONU estime que pour l'adaptation, à partir de 2030, on est entre 160 et 340 milliards de dollars annuels en termes de besoins pour les pays en développement simplement. Et là, je parle d'adaptation, je ne parle même pas d'atténuation des émissions de gaz à effet de serre ni de réponse aux catastrophes climatiques.
Donc, il faut, vous nous dites, plus que 100 milliards de dollars d'engagement des pays développés pour les pays en développement. Or, ces 100 milliards de dollars, ils ne sont même pas respectés par année. C'est ce qui émerge, en tout cas, de ces deux premières années, puisque c'était quelque chose qui devait être décidé à partir de 2020. Lola Valéjo, vous qui êtes à Sharm el-Cheikh depuis cette COP27, est-ce que sur place, il y a une certaine crainte des acteurs finalement de prendre des décisions qui risquent de ne pas être respectées, comme finalement on l'évoque ce soir?
Je pense que c'est effectivement un des gros enjeux de cette COP-ci. L'année dernière, à la COP26, c'était un moment très marquant dans la mise en œuvre de l'accord de Paris parce que tous les États devaient relever leurs contributions, leurs engagements de réduire les émissions jusqu'à 2030. D'une façon qui nous permette d'éviter les impacts les plus dangereux du réchauffement climatique. Alors, encore une fois, vers à moitié plein ou vide, on a fait des progrès en termes de promesses par rapport à Paris, mais les promesses sont encore extrêmement décomptes, comme ça a été dit. Et on a aussi acté le fait que la promesse des 100 milliards de finances climat n'était pas atteinte. Donc évidemment, on est dans un moment très difficile où un an après, beaucoup de pays du Sud disent « mais Pourquoi est-ce qu'on est là? Pourquoi est-ce qu'on vous écoute ?» Je pense que c'est aussi ça qui explique le fait que les promesses passées font que les impacts du réchauffement climatique, notamment les inondations au Pakistan, quatre sécheresses de suite en Somalie, par exemple, quatre années de suite, on a énormément d'impacts, hein, ça a aussi été dit. Mais c'est aussi ça qui fait qu'on parle beaucoup de réponses financières rapides aux impacts déjà réalisés. Quelque part, j'ai l'impression qu'on essaye de déplacer le sujet de discussion vers la question de ce qui s'appelle les pertes et préjudices et qui parle beaucoup plus de questions de responsabilité, justement parce qu'on a été déçus par les engagements en termes d'atténuation et les engagements en termes de finances climat. Je pense qu'une des choses intéressantes aussi que les COP permettent, c'est que on a à la fois des négociations un petit peu formelles, on parlait des diplomates, de déclarations de sortie, de points d'agenda très précis. C'est très formel et c'est un processus onusien qui a son importance. Mais il y a aussi des choses qui se passent autour. Et notamment, une des choses qui moi, j'ai trouvé intéressante, c'est que la première ministre de la Barbade, Mia Mottley, qui plaidait pour une réforme beaucoup plus large du système financier international, peut-être que ce qu'apporte le Fonds monétaire international, la Banque mondiale comme soutien aux pays les plus pauvres, doit mieux prendre en compte les risques de pandémie, les risques liés au changement climatique. Ça, c'est quelque chose qui est en train de progresser, où justement la France a apporté son soutien pour porter le sujet dans ses instances dès le printemps prochain. Et bon, c'est un exemple, et c'est évidemment pas tout le tableau, mais c'est pour montrer que il y a quand même des façons un peu créatives d'avancer, même quand les négociations elles-mêmes semblent bloquées, pour avoir une sorte de paquet qui permette au multilatéralisme de tenir, parce qu'il y a vraiment un risque en ce moment d'effritement de la confiance très important. Mmh.
On est vraiment sur une ligne de crête. Je vous ai vu faire non de la tête, Amida. Désenchanté un petit peu des COP.
C'est-à-dire que je considère que, d'abord, nous sommes dans une situation géopolitique dont on va parler quand même un petit peu.
Un contexte compliqué.
Un contexte terrible de convergence de crise, mais absolument qu'on n'a jamais connu depuis, dire, la sortie de la Deuxième Guerre mondiale. Et donc, c'est pas évidemment qu'on tient au système multilatéral.
Ça pèse lourd sur une COP, évidemment, mais quand il y a une guerre, quand il y a des tensions
évident.
Comme il y a entre
vous
les États-Unis
imaginez,
et la Chine.
Toute la construction de ce processus COP, il est basé sur l'idée qu'on est tous sur la même planète, qu'on doit sauver notre planète, qu'on est tous sur le même bateau, pardon. Mmh. Et donc voilà. Mais évidemment que ce que montre le conflit et la guerre de Poutine contre l'Ukraine, c'est que non, on n'est pas tous sur le même bateau. Il y a les pays ont des intérêts terribles à défendre et ils le font de façon avec des moyens maintenant militaires, violents, etc. Et ce qu'on voit aussi, et ça, ça pèse sur le sujet dont Lola vient de parler, c'est-à-dire que les pays en développement, y compris pauvres, en Afrique, qu'est-ce qu'ils ont fait par rapport à la dernière Assemblée générale de l'ONU? Ils n'ont pas voté la solidarité avec les pays démocratiques et l'Europe et l'Ukraine. Non, ils se sont abstenus et ils ont plutôt, pour certains d'entre eux même, voté du côté de la Russie. Pourquoi ? Parce qu'il y a aujourd'hui une sorte de ressentiment qui se passe. Je crois que aussi, malheureusement, les pays européens ou les États-Unis, etc., n'ont pas très bien agi vis-à-vis de ces pays durant pas mal d'années. Les questions, justement, financières dont on a parlé, on les redécouvre, mais ça fait des années qu'on sait qu'il fallait payer, enfin qu'il fallait aborder ce problème, d'aider les pays en développement pauvres face aux périls climatiques, à s'adapter, à résister, etc. Bon, il y a ce problème, mais il n'y a pas que celui-là. Il y a le problème des migrations, qui n'ont pas été très bien gérés, etc., y compris en Europe, par rapport aux vagues migratoires, etc. Aujourd'hui, par rapport à la question énergétique, on voit qu'il y a une dislocation générale entre les différents pays, y compris en Afrique même. Quand vous voyez, par exemple, les tensions terribles qu'il y a entre l'Algérie et le Maroc, deux puissances qui sont importantes quand même,
ça relègue toujours plus loin la question climatique, c'est
exactement
ça le problème.
Notamment,
il y a le retour en grâce des énergies fossiles qui financent la guerre, ça pèse lourd
si
évidemment
voulez,
sur une COP.
C'est difficile d'être de défendre la. Je ne défends pas une position, je fais une analyse. Je crois qu'il faut être lucide. Évidemment, il ne s'agit pas de baisser les bras et de se dire on n'y arrivera jamais. Mais il faut quand même savoir comment se positionnent les pays pour savoir comment est-ce qu'on va essayer de lutter et sortir le plus rapidement possible des énergies fossiles. Ce que la guerre en Ukraine nous montre, c'est que c'est un enjeu majeur. Et si aujourd'hui, l'Europe ou les pays développés démocratiques, sur lesquels quand même, c'est notre béquille, les pays démocratiques, on n'a rien d'autre pour s'appuyer, vont chercher leur pétrole ou leur gaz au Qatar et dans les pays des Émirats arabes unis, plutôt que de sortir résolument de leur engagement aux fossiles, ça ne sera pas mieux, parce qu'il y aura d'autres problèmes géopolitiques majeurs avec ces pays-là, on le sait bien.
Alors, dans ce contexte justement géopolitique extrêmement compliqué, quels moyens de pression, Guillaume Compin, vous qui êtes à Oxfam France, ont les ONG pour peser lors des discussions, parce que les ONG, évidemment, elles sont présentes lors des COP, comme la COP 27 actuellement?
Exactement. Alors déjà, les ONG qui sont présentes sur place participent en tant qu'observatrices aux négociations climatiques, donc n'ont pas une voix au chapitre en tant que partie comme peuvent l'être les États. En revanche, peuvent assister à un certain nombre, en tout cas, d'échanges, de négociations qui se passent à COP, alerter l'opinion publique quand il y a des négociations qui paraissent très douteuses, voire qui sont des pas en arrière. Et donc ça, c'est déjà un rôle d'information et d'alerte. Et puis, on a aussi un rôle à jouer dans le positionnement de nos États respectifs, donc typiquement mettre la pression sur la France à travers des réunions, à travers par exemple les délégations qui se rendent au COP. C'est aussi alerter l'opinion publique en participant justement à des émissions comme la vôtre et en alertant sur vraiment les enjeux et le rôle que peuvent jouer nos États dans cette action climatique.
Mais vous avez l'impression d'être entendu par quand il y a alors l'égérie du climat aujourd'hui, c'est Greta Thunberg. Elle participe pas à la COP27. C'est un signal fort. Est-ce qu'aujourd'hui, la lutte contre le réchauffement climatique, la lutte contre le changement climatique, elle se trouve ailleurs? Quand on voit la multiplication des actions radicales en faveur de l'écologie, où est-ce qu'elle se trouve vraiment officiellement? Elle se trouve là, Sharm el-Sheikh, aujourd'hui à la COP27.
Elle se trouve partout en réalité. Vraiment partout, dans tous les espaces. Dans cette conjonction d'actions, c'est-à-dire à la fois sur des actions militantes, sur ça peut être des marches climat, ça peut être les actions qu'on voit aujourd'hui, qui sensibilisent fortement l'opinion, qui interpellent notamment les décideurs dans les États, puisque ensuite la COP, c'est un espace où les États vont dialoguer.
Mais vous y croyez-vous à l'action de la COP ?
Oui, moi j'y crois, je pense que ça fait partie des différents espaces où on avance dans la transition écologique et dans l'objectif, en tout cas la tentative d'atteindre l'objectif de 1,5 degré.
Amit Dahan, rapidement avant de repartir à Sharm el-Sheikh, j'aurais vous redonner la parole. Est-ce que vous pensez que le format de la COP devrait évoluer ?
Moi j'avais pensé qu'effectivement, en particulier l'année dernière à Glasgow, vous savez, c'était un peu la COP après le Covid, après cette interruption. Et une offensive britannique, et en particulier de Boris Johnson, de réenchanter le capitalisme, de dire tout va bien, il y a énormément de très grandes entreprises qui sont là, y compris bien sûr du numérique et de tout, mais aussi des technologies, y compris des fossiles. Et tous ces gens ont beaucoup, beaucoup plus d'argent que les États. C'est eux qui vont décarboner. C'est possible, etc. Voilà. Il y avait cette euphorie qu'a lancé le discours de Johnson, etc. Bon, c'était quand même dans un pays démocratique. Donc, vous savez, c'est très important que ce soit dans des pays quand il y a ce que j'appellerais plusieurs cercles de gouvernance. Il y a les négociations dans les délégations, etc. Il y a le off, qui a joué un rôle majeur pendant 20 ans, le off. Majeur. Et l'année dernière, il y avait un peu ce qu'on a appelé le off du off.
D'accord. C'est l'évolution du format de la COP, selon vous.
Parce que le off du off, c'est-à-dire les manifestations, Extinction Rébellion importante dans les rues de Glasgow, etc., ça pèse. Bon, évidemment,
ça pèse, mais est-ce que c'est suffisant, encore une fois, face à l'urgence climatique ?
Mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? En Égypte, avec ce pays tel qu'il est,
Fallait pas organiser une COP en Égypte, déjà.
Je suis assez réservée. Et deuxièmement,
qu'est-ce qu'il faudrait faire de plus ? Ou qu'est-ce qu'il faudrait faire différemment pour faire avancer la cause climatique à travers les Nations Unies, puisque c'est les Nations Unies qui organisent des COP ?
Je suis d'accord avec Guillaume, c'est-à-dire c'est un élément parmi bien d'autres.
D'accord.
Aujourd'hui, ce n'est peut-être pas là que les choses vont se décoincer, parce que malheureusement, la situation est telle que les Nations Unies, il faut se rappeler que M. Guterres, il est allé à Kiev et il a reçu là un missile envoyé par Poutine ce jour-là. Vous vous rappelez ça ? C'était en avril. C'est donc un truc qui est un symbole énorme. Bon, évidemment, il s'accroche, il essaye de lutter et de continuer. Et il a raison, il faut le soutenir. Mais enfin, les Nations Unies aujourd'hui ne sont quand même pas... Enfin, je veux dire, il faut peut-être, bien sûr, que ce n'est pas seulement là que ça va se passer.
Mais est-ce que vous qui êtes historienne des sciences notamment, mais est-ce que ça ne témoigne pas finalement d'une impasse dans laquelle se trouvent aujourd'hui les organisations internationales ? C'est une question large, mais j'aimerais que vous soyez rapide, parce que j'aimerais vraiment entendre Lola Vallejo. Il y a le veto de l'ONU sur beaucoup de décisions qui bloquent des annonces et des décisions importantes de politique internationale.
Nous, on avait analysé avec mon co-auteur, là, dont vous avez mentionné l'ouvrage, cette idée que nous avons longuement approfondi, qu'il y avait un schisme de réalité dans cette gouvernance. C'est-à-dire, d'un côté, voilà, des bonnes intentions, des paroles, etc., bon, un accord consigne et tout, et de l'autre côté, des pare-feux, si vous voulez, avec d'autres lieux internationaux, l'OMC, le G20, le G8, l'Organisation du commerce, etc., qui prennent tout le temps des décisions qui sont contraires aux enjeux climatiques.
Et la géopolitique, en ce moment, fait partie des déboulés.
Exactement. Donc, vous avez cette coexistence-là, et on pense que tout avance et que ça va finir par se faire. Je crois qu'il faut désigner ces contradictions et les identifier. Alors, par exemple, je donne un exemple. Macron et quelques autres ont décidé de quitter le traité de la charte de l'énergie. Ça, c'est très important. Alors, ça n'a pas été encore ratifié par toute l'Europe. Mais c'est un enjeu majeur, parce que sinon, les pays n'ont pas de souveraineté pour développer des politiques climatiques résolues. Étant donné qu'il faut rembourser des investisseurs de sommes absolument énormes, parce qu'ils ont décidé de voilà, et la charte les protégeait, l'OMC les protégeait.
Et la question aussi est de savoir si finalement ce ne sont pas les États davantage que les COP qui prennent des décisions en faveur du climat. Il y a eu, par exemple, en Union européenne, l'annonce de l'objectif de réduire de 55% les émissions de gaz à effet de serre d'ici 2030, la fin des véhicules thermiques en 2035. Aux États-Unis, il y a eu un texte important, le plus vaste, désigné en faveur du climat et sur l'énergie. Lola Vallejo, directrice du programme climat de l'Institut du développement durable et des relations internationales, vous êtes, je le rappelle, depuis cette COP27 de Sharm el-Sheikh. Est-ce que vous sauriez nous dire quelles sont les ambitions finalement de cette COP? Alors c'est une question vaste, il nous reste quelques minutes.
Peut-être juste pour dire tout à fait les décisions pour changer le climat, elles se prennent dans les pays et elles se jouent au niveau des élections et au niveau de la pression que peut mettre la société civile, du soutien que peuvent apporter des associations professionnelles dans la manière dans laquelle les politiciens vont réussir à embarquer leur société et les secteurs économiques.
Donc en ce sens, les COP ne pèsent pas sur les décisions alors?
En fait, si le niveau national, c'est quand même celui sur lequel les décisions se prennent, les législations, les mesures et les politiques, elles sont décidées au niveau national. Néanmoins, l'arène internationale, elle reste quand même, à mon avis, indépassable parce que c'est un problème global et parce que si on laisse tout se régler dans les arènes internationales qui pèsent, qui sont le G7, le G20, alors on met de côté tous les pays les plus vulnérables et on n'arrive pas à avoir ce sort d'égaliseur finalement pour remettre sur la table des sujets transversaux de solidarité et du lien très clair qu'il y a entre plus d'ambition. On peut demander plus d'ambition aux pays en développement si on apporte aussi des gages de solidarité. Donc il y a des choses qui vont être annoncées, plus que décidées à ces COP. Il y a des choses qui vont être négociées pour la mise en œuvre de certains de ces traités. Mais ça sert plutôt de caisse de résonance et de catalyseur pour des décisions et des dynamiques qui sont ensuite portées, poursuivies au G7, au G20, à l'OMC, ou comme j'en parlais tout à l'heure, aux assemblées du FMI, de la Banque mondiale. Mais la COP, c'est quand même un moment de rythme assez indépassable et ça permet de prendre le pouls aussi de où en sont les différentes conversations nationales. Ça permet de mettre de la pression, mais ça permet aussi de révéler ce qui se passe dans les pays et d'apporter de la transparence dans tout ça. Parce que c'est sans l'ONU, on n'aurait pas quand même cette injonction à la transparence pour tous les pays.
Oui, ça renvoie aussi à ce qu'on disait avec finalement tout. Dans la lutte contre le changement climatique est une conjonction de choses entre les actions radicales et les COP. Vous nous dites là, entre les sommets internationaux type G20 et la COP, il nous reste quelques secondes. Je voudrais vous poser une dernière question, mais est-ce qu'il faut encore s'attendre, et est-ce que ça veut dire finalement qu'on a du mal à prendre une décision, à l'annonce d'un traité, l'annonce d'un accord qui va intervenir au terme d'un marathon de plusieurs heures, plusieurs jours, qui vont déplacer la fin de la COP 27?
Ça ne peut pas être un traité, ça peut être une mesure.
Depuis l'accord de Paris, on garde le traité de l'accord de Paris. Et c'est aussi ça la beauté, c'est qu'en fait, avant ça, on s'est échiné à négocier des traités, des périodes d'application très courtes, qui faisaient qu'on passait notre temps à discuter du cadre. L'accord de Paris, il a un objectif très clair, un lien très clair avec la science, et on a une sorte d'accord dynamique où tous les 5 ans, on se donne rendez-vous pour relever l'ambition. Et ça pose un cadre autour de la transparence, notamment, qui est très important. Mais justement, on ne discute plus du cadre.
D'accord.
Maintenant, là, on est vraiment dans la question de la mise en œuvre et dans toute une lignée de détails. Donc, il y aura des annonces, notamment, je pense que le signal le plus important qu'il faut attendre, c'est celui autour de la solidarité par rapport au contexte très important et la géopolitique dramatique qu'on voit en ce moment à laquelle, évidemment, vous avez fait référence.
Eh bien, merci, Lola Valéjo, à suivre donc. Merci beaucoup à nos deux autres invités, Ami Dahan et Guillaume Compin, et à Florence Ponce à la préparation de ce débat qui est à présent terminé. Jean-Philippe Thury à sa réalisation.